Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les titres. La première ministre Judith Suminwa appelle à l'implication des communautés locales dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Selon elle, l'engagement des populations est indispensable pour accompagner les efforts du gouvernement, des partenaires et des autorités locales. Nord Kivu amputé par la guerre, Wivine Mutaka plaide pour le retour de la paix. Elle voudrait que la paix revienne enfin pour qu'aucun autre innocent ne subisse son calvaire. Invité du journal, Idesbal Chinamula, expert en développement durable, plaide pour des investissements structurants afin de sortir la République démocratique du Congo de la dépendance à l'aide extérieure. Encore une fois, bonjour à tous. La première ministre Judith Suminwa appelle les communautés locales à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Selon elle, l'engagement des populations est indispensable pour accompagner les efforts du gouvernement, des partenaires et des autorités locales. Elle estime que sans une véritable adhésion des communautés, les moyens mobilisés ne suffiront pas à vaincre l'épidémie. Judith Suminwa a lancé cet appel vendredi à Mungwalu lors d'une rencontre avec les différentes composantes de la population. Elle est au micro d'Isaac Remoyopé.
Pour les communautés, ce que j'aimerais bien passer comme message, c'est que sans l'engagement communautaire, nous ne parviendrons pas à éradiquer cette maladie. Il faut absolument que les malades qui sont au sein des communautés puissent arriver le plus tôt possible à l'hôpital. Dès que vous avez connaissance de quelqu'un qui a des symptômes, même si ces symptômes peuvent être autre chose, il vaut mieux le pousser à aller dans un centre de santé. Dès que vous avez connaissance de quelqu'un qui est personne contact, il vaut mieux l'aider, lui expliquer qu'il vaut mieux aller vers le système de santé parce que c'est ça qui va permettre une meilleure prise en charge le plus rapide et pouvoir rapidement aussi donner les soins appropriés. Que au niveau des communautés, les autorités locales, les jeunes, les femmes puissent s'associer dans le cadre des relais communautaires à la sensibilisation pour qu'on ait une meilleure prise en charge. Donc c'est ensemble, avec les autorités, avec les partenaires et surtout avec la communauté que nous allons pouvoir vaincre cette maladie.
Restons dans la province. Une centaine de leaders ecclésiastiques des zones de santé de Bunia et Rwampara ont achevé vendredi une formation à la prévention de la maladie à virus Ebola. Pendant 2 jours, ils ont renforcer leurs connaissances afin de mieux sensibiliser leur communauté. Une initiative de l'ONG congolaise PPSSP avec l'appui financier des Tirfand. Le reportage de Jean-Claude Lokidile.
Au menu, mode de transmission du virus, mesures de prévention et contrôle des infections. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur les principaux aspects de la lutte contre Ebola. À l'issue de cette formation, plusieurs leaders religieux affirment être désormais mieux préparés à sensibiliser leurs fidèles. Écoutons Régine Apendeki, l'une des bénéficiaires.
Cette formation est d'une importance capitale. À mon tour, je vais sensibiliser les autres membres de la communauté sur le respect des mesures d'hygiène, les lavages des mains après les toilettes, au retour du marché ou encore avant les repas.
Pour les organisateurs, leur proximité avec les communautés et l'influence dont certains jouissent auprès des fidèles en font des acteurs clés dans la diffusion des messages de la santé publique. Pascal Mabé, chef du projet.
Les leaders ecclésiastiques constituent des personnes influentes dans la zone. Donc, après la formation, ils sont appelés à aller sensibiliser dans leurs églises afin d'amener la communauté à adhérer aux actions de la santé publique par rapport à la riposte contre cette épidémie.
Dans un contexte de vigilance sanitaire, les organisateurs mise sur l'implication de ces responsables religieux pour renforcer la sensibilisation au sein des communautés où leurs paroles demeurent l'une des plus écoutées. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la population doit cesser de payer le lourd tribut de la guerre. C'est le cri du cœur de Wivine Mutaka. En 2014, alors qu'elle n'avait que 17 ans, une bombe a frappé sa maison à Beni et lui a coûté sa jambe gauche. De ce drame, elle a fait une force grâce à une bourse du CICR. Elle a suivi une spécialisation et travaille aujourd'hui comme technicienne orthoprothésiste au Centre pour handicapés physiques Shirika La Umoja de Goma. Elle voudrait que la paix revienne enfin pour qu'aucun autre innocent ne subisse son calvaire. Rosalie Zawadi.
Après le drame, Wivine et ses deux parents, aussi blessés, sont pris en charge par les CICR. En voyant d'autres patients retrouver les sourires grâce à leurs prothèses, la jeune fille décide d'en faire son métier. Elle décroche une bourse du CICR pour se former durant 3 ans au Togo. Elle rentre à Goma début 2025 en pleine guerre. Chaque jour, ses patients lui rappellent sa propre histoire. Mais ce qui la touche le plus, c'est de devoir fabriquer des prothèses pour des enfants de 5 ans à peine.
C'est toujours la même histoire sur des victimes de guerre. Personnellement, mon père n'est même pas politicien. C'est un simple agronome. Juste ça. Mais voilà, sa fille n'a plus ses deux jambes. Et pour les enfants là, la plupart des parents sont des cultivateurs. Pourquoi les enfants doivent perdre leurs jambes? Pourquoi on est victime de tout ce qui se passe en RDC? Pourtant, on ne profite même pas de la richesse de notre pays. Nous, population, nous avons juste besoin de la paix. Ils peuvent se tirailler entre eux là-bas et laisser la population tranquille.
En attendant les retours de la paix, Wivine continue de se battre au quotidien pour redonner les sourires à ses patients. Par ses mots et son propre parcours, elle leur prouve que la vie ne s'arrête pas avec une amputation. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis face à la détérioration de la situation sécuritaire à Kabambare par le général autoproclamé Mayaya, le gouvernement provincial du Maniema attire l'attention du ministère de la Défense. Entre-temps, une commission mixte va descendre pour évaluer le degré de la situation. Décision prise à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité tenue en urgence le jeudi dernier. On écoute Lawamo Selemani Taylor, ministre provincial de l'Intérieur, qui s'est confié à Florence Kizalung.
Oui, nous sommes au courant de cette incursion d'un certain Mayaya qui s'est dit être Muzalendo, venu de Nyunzu, où il fait terreur. Il a préféré, dans son esprit expansionniste, venir s'attaquer à la population du Maniema. Là, la population est en débandade et les informations que nous avons, il cherche à exploiter, à chasser les exploitants miniers pour que lui puisse s'accaparer comme dans ses habitudes. Et c'est comme ça que le gouverneur de province avait présidé une réunion du comité provincial de sécurité en urgence pour pouvoir suivre la situation et surtout arrêter des mesures pour l'intérêt de la population qui est en débandade ces derniers jours. Et au cours de cette réunion, il a été arrêté le déploiement en urgence d'une délégation mixte assemblée provinciale, les membres du comité provincial de sécurité, y compris le membre du gouvernement provincial, pour chercher d'abord à évaluer la situation sur le terrain et arrêter des mesures de nature à éviter de telles incursions. Sinon, l'autorité provinciale est en train de faire un rapport à la hiérarchie parce qu'il s'agit d'une question de la défense nationale. Je crois qu'au niveau de Kinshasa, on va arrêter des mesures pour qu'on puisse remettre de l'ordre, surtout dans les limites de la province de Maniema.
Des voyageurs à bord du bateau La Manne du Ciel, en provenance de Goma au nord Kivu et à destination de Bukavu au sud Kivu, ont passé l'aube de ce samedi dans la terreur à la suite d'une fusillade attribuée à un combattant du M23 présent à bord de l'embarcation. Selon un bilan encore provisoire, une personne a perdu la vie et 3 autres ont été blessés. Pendant ces temps, ce sont des enquêtes qui sont en cours pour en savoir un peu plus sur ces drames. Ronéline Tibonera nous donne des détails sur cet incident.
D'après des témoignages recueillis à bord de l'embarcation, tout serait parti d'une dénonciation concernant le vol présumé d'un téléphone appartenant à un passager civil. Le téléphone aurait été subtilisé par un combattant du M23 alors que plusieurs passagers dormaient. Après avoir constaté la disparition de son appareil, les passagers se seraient tournés vers le commandant du combattant. Une fouille aurait ensuite été effectuée permettant de retrouver le téléphone caché sous les sous-vêtements des militaires. Se sentant humilié, le présumé voleur serait revenu une trentaine de minutes plus tard, visiblement en colère avant d'ouvrir le feu sur son commandant et des passagers à bord. Il se serait ensuite jeté dans les eaux du lac qui vous rapporte les mêmes sources. L'incident est également confirmé par des sources indépendantes au sein de la société civile. Elles indiquent que les 3 personnes blessées lors de la fusillade ont été conduites aux urgences à l'hôpital général de référence de Bukavu. Entre-temps, des enquêtes auraient été ouvertes tôt ce samedi matin par les autorités de facto afin d'établir les circonstances exactes de l'incident. Par ailleurs, certains activistes informés de la situation dénonce la présence des armes détenues par des combattants du M23 à bord d'un navire civil. Il rappelle que les codes de navigation maritime en RDC imposeraient à tout militaire embarqué à bord d'un navire marchand de remettre son arme au commandant de bord afin qu'elle soit consignée dans un endroit sécurisé et déchargée pendant toute la durée de la traversée.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a approuvé les plans stratégiques triennal 2026-2028 de l'Inspection générale des finances IGF, c'est jeudi 23 juillet 2026, après son audience avec l'inspecteur général des finances, chef de service de l'Inspection générale des finances IGF, Christophe Bitassimwa Bayi, qu'il a reçu dans son cabinet. Accompagné de son adjoint Emmanuel Tshibingu, Christophe Bitassimwa a expliqué au chef de l'État la nouvelle vision de l'IGF qui s'attelle à être un organe d'intelligence au service de la transformation de la gouvernance publique. Il en parle au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays.
Kinshasa et Brazzaville s'activent dans le choix de l'entreprise à laquelle seront confiés les travaux de construction du pont route rail sur le fleuve Congo. C'est dans ce cadre que les points focaux de la RDC et du Congo Brazzaville ont organisé ce vendredi à Kinshasa une séance de clarification en faveur de 4 entreprises préqualifiées dans la course à l'obtention du marché. Reportage rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
La rencontre entre les points focaux et ces 4 groupements d'entreprises s'est tenue à la salle Kampala de l'hôtel Rotana à Kinshasa. Elle a concerné les groupements CCCC et CRBC, CREC CCSCC, COVEC CREC 4 MBC ainsi que CSC et GIS STOA. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a expliqué l'essence de cette démarche. Niko Nzau Nzau.
Du côté Congo, 27 km qui doivent réunir Brazzaville jusqu'au niveau des sites. Il est encore inaccessible. Tandis que du côté de la RD, les sites où il est accessible, c'est la raison que la BEL les avait vus, que toutes les entreprises se sont rabattues sur la RDC pour venir visiter.
De son côté, le directeur de la Direction Générale des Grands Travaux du Congo-Brazzaville a indiqué que cette séance de clarification leur a permis de s'accorder sur plusieurs points. Oscar Otoka.
Aujourd'hui, nous avons fait donc le point avec tous les experts des deux pays, avec la CES qui est l'organe des experts et les entreprises soumissionnées pour essayer de clarifier certaines choses.
Le projet route rail entre Kinshasa et Brazzaville est développé sous l'égide d'Africa 50, principal développeur mandaté pour structurer les partenariats publics-privés avec l'accompagnement financier et technique de la Banque africaine de développement BAD et de la communauté économique des États d'Afrique centrale.
Ce jour-là se poursuit dans les Haut-Katanga où la première édition de la Conférence nationale sur les hydrocarbures s'est clôturée ce vendredi 24 juillet après 2 journées de réflexion consacrées aux défis et aux perspectives du secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC en partenariat avec le ministère des hydrocarbures, ces assises ont réuni des membres du gouvernement central, des autorités provinciales, des opérateurs pétroliers, des entreprises minières, des représentants du secteur privé ainsi que des experts autour du thème « Le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie de la RDC ». Des détails avec Paulin Monanga.
Procédant à la clôture des travaux au nom du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le directeur de son cabinet, Albert Kasongo Mukonzo, a réaffirmé que la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers constitue une priorité stratégique pour le gouvernement au regard de son impact sur l'économie nationale et particulièrement sur les secteurs miniers. Il a également rappelé que le gouvernement poursuit les réformes visant à renforcer la gouvernance du secteur pétrolier, à améliorer la stabilité du marché, à intensifier la lutte contre la fraude et à garantir un approvisionnement régulier et durable en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Albert Kasongo Mukonzo.
La configuration structurelle de notre secteur pétrolier démontre clairement le poids et le rôle capital de la zone sud. Les produits pétroliers s'affirment davantage comme des intrants économiques de premier ordre, soutenant les fers de lance de l'économie congolaise, notamment le secteur minier.
De son côté, le président provincial de la FECO Katanga, Patrick Muland Kabei, a invité les participants à privilégier un dialogue constructif afin de dégager des recommandations pragmatiques susceptibles d'améliorer durablement le fonctionnement du secteur dans un esprit de collaboration entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Le comité de suivi de la paix et la Caisse générale d'épargne du Congo unissent leurs efforts pour améliorer la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État à travers le pays. Lors d'une rencontre organisée vendredi à Kinshasa, ces deux institutions ont décidé de renforcer leur collaboration afin d'assurer une paie sécurisée et de proximité, notamment dans les milieux reculés de la RDC. La coopération entre le comité de suivi de la paie, CSP, et la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement congolais visant à moderniser l'administration publique, à étendre l'inclusion financière et à améliorer les conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État. Avec cette dynamique, le CSP entend intégrer la CADECO dans les réseaux des opérateurs des pays à l'échelle nationale. Cette initiative vise, entre autres, à garantir une paie de proximité fiable, plus fiable, transparente et sécurisée pour le Congo profond.
Actualité internationale.
Nouvelle étape, c'est samedi 25 juillet 2026 pour les partisans des Bassirou, Dioma et Faye. La coalition Dioma et président doit officiellement laisser la place à un nouveau parti annoncé le vendredi 3 juillet 2026 dont le nom sera dévoilé lors d'une assemblée générale constitutive. Le chef de l'État sénégalais devrait en prendre la présidence. Cette naissance intervient dans un contexte de départ remarqué tant au sein des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF qu'à l'Alliance pour la République APR.
L'invité.
Expert en développement durable, Idesbal Chinamula encourage la mise en place d'une gestion axée sur des investissements structurants afin de sortir la RDC de la dépendance de l'aide extérieure. Ces scientifiques et écrivains formulent cette requête dans son ouvrage intitulé « L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique, exemple de la RDC » présenté ce jeudi à Kinshasa. Il souhaite également que l'aide extérieure soit capitalisée et transformée en un véritable levier de développement durable en RDC qui fait encore face à des défis en termes de transport, de l'électricité, de l'eau et autres. Idesbal Chinamula s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur Idesbal Chinamula.
Bonjour monsieur.
Que retenir de l'ouvrage « Assistance technique au développement » que vous venez de présenter au public?
Le livre il s'interroge sur qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme résultat du développement de la RDC durant les 20 dernières années, donc ce que nous avons glané comme résultat avec toute l'aide que nous avons reçue. C'est une période où la RDC a reçu une aide massive entre 2001 et 2020. La RDC a reçu autour de 85 milliards de dollars d'aide contre un budget mobilisé au niveau national de 75 à peu près 75 millions de dollars. Donc en total, on a dépensé à peu près 150 milliards, 85 milliards d'aides contre 75 milliards de ressources domestiques mobilisées. Alors la question qu'on se pose, malgré cette aide massive, on constate que les pays, jusqu'en 2020, continuent toujours à faire face à des défis importants en termes d'accès à l'électricité, en termes de transport, en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès au logement, beaucoup de défis comme ça. Et donc, pourtant, toutes ces questions étaient des questions essentielles, critiques, comme prioritaires pour le développement de la RDC et pour lesquelles, effectivement, qui ont englouti d'importantes ressources de la part des parties. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est ça la question que je me pose dans les livres. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que moi-même, j'étais sur le terrain.
Que préconisez-vous pour capitaliser l'aide au développement?
Mon état d'esprit dans l'analyse, ce n'est pas indexer les gens, indexer les parties prenantes en disant la responsabilité incombe à tel ou à tel autre. Dans mon analyse, j'essaie plutôt de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché. Et en m'interrogeant la question pourquoi ça n'a pas marché, donc j'arrive effectivement à voir la responsabilité des uns et des autres. Et donc je vois effectivement que l'État, par exemple, a une très très grande responsabilité. Il y a eu des projets pilotes qui ont réussi. Malheureusement, les réussites restent au niveau des projets pilotes, n'arrivent pas à traverser la phase des projets pilotes pour aller à l'échelle. Ça veut dire qu'on atteint, avec toute l'aide qu'on a reçue, on atteint un petit nombre de bénéficiaires et on n'arrive pas à étendre les bénéfices au-delà du petit nombre de bénéficiaires. Or, pour atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires, ça c'est de la responsabilité de l'État. Mais tel que l'État est structuré, tel que l'État fonctionne, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre cette étape-là. Et donc finalement, on se limite à des projets pilotes et ça ruine un tout petit peu les investissements et tout l'effort qui a été fait.
Dans ces cas-là, vous lancez la balle là aux autorités politiques.
Bien sûr, il faut effectivement qu'on prenne conscience que l'État est responsable de la population. Trois fonctions essentielles au niveau donc de l'État. La question de la souveraineté de l'État, la première fonction essentielle de l'État, et c'est la décision souveraine. La deuxième fonction essentielle de l'État, c'est la capacité de mettre en place des institutions qui répondent aux besoins de la population. Et la troisième fonction de l'État, c'est la sécurité du territoire national et de la population. Alors, il y a une démographie importante, une explosion démographique en vue, et donc les niveaux des services publics ne suivent pas cette tendance-là démographique, parce qu'il y a un retard accumulé pendant la période qu'on vient d'analyser. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, en termes de services publics, et donc ce retard-là, aujourd'hui, porté par les gouvernants actuels. Les gouvernements actuels portent cette responsabilité-là, malheureusement, parce que ça s'est accumulé.
Quelle est la part de la population dans tout ça?
Oui, parce que la population doit comprendre aussi que l'État, c'est tout le monde. Et la population doit également abdiquer. Nous sommes une république. Une république, c'est-à-dire les populations disent nous voulons être dirigés par une autorité qui prend les décisions à notre place. Donc la population doit s'engager. Mais la population reste mobiliser et doit se mobiliser derrière les actions publiques, l'action publique, savoir respecter l'État, savoir s'engager dans les orientations publiques qui sont données, pour autant que ces orientations, bien entendu, consistent à répondre aux besoins de la population.
L'ouvrage a paru dans quelle maison d'édition et il compte combien de pages?
L'ouvrage a été publié par Harmattan. L'ouvrage contient 246 pages. En fait, pour moi, cet ouvrage, c'est beaucoup plus un compte rendu que j'ai rendu. C'est même un devoir d'héritage en tant que citoyen. Et c'est ça, quand vous posiez la question, qu'est-ce doivent faire les citoyens? Les citoyens doivent aussi partager leur expérience, doivent aussi se mettre à contribuer pour améliorer la société. Donc,
Monsieur Idesbal Chinamula, nous vous disons merci.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Ouais, c'était là notre invité Idesbal Chinamula qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée. Grand merci à Jean-Désiré Kanyama et à Lievin Mbouinga qui nous ont aidés à réaliser ce journal. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.